Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici dans cet auditorium voilà, de la ville de Brive, dans le cadre évidemment de cette foire du livre de Brive-la-Gaillarde, ouverte évidemment à la littérature, aux littératures et aux, comment dire, aux profils très variés d'auteurs que vous avez plaisir à venir rencontrer. Ça, on vous remercie vraiment de votre présence. Et avec une rencontre, cette fois-ci sous le signe des lettres, et des notes, j'aurais tendance à dire, avec nos deux invités ici présents que vous connaissez. Tout d'abord, Olivia Ruiz. Bonjour Olivia, merci d'être venue.
Bonjour.
Allez. Voilà. Vous avez fait paraître cet ouvrage aux éditions Jean-Claude Lattès, Écoute la pluie tomber. On vous connaissait comme chanteuse. Et soudain, il y a eu un livre qui a changé la donne et qui a connu un succès considérable avec votre commode. Combien d'exemplaires au total ? De mémoire à peu près. Votre éditrice est dans la salle.
Elle dit un demi-million pour rien. Mais j'ai réussi à l'entendre. Je sais pas trop. 300 000.
Ah oui, c'est vous dire l'emballement avec un bouche à oreille incroyable sur ce livre qui nous a fait découvrir. Ça mérite aussi quelques applaudissements quand même. Je peux vous assurer que c'est un très 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 beau score qui a montré votre talent d'auteur, et donc vous faites votre retour avec cet ouvrage dans la continuité mais différent, comme vous allez vous en apercevoir. Écoute la pluie tomber. Et à vos côtés, allez, aussi des applaudissements pour André Manoukian. Voilà. Et voilà. Avec vous sur les routes de jazz, ce recueil de chroniques nous apprennent énormément de choses sur la musique en général, avec force anecdotes très étonnantes. Je vous assure que, alors moi j'ai appris plein de trucs aux éditions HarperCollins. Donc on va discuter tranquillement tous les trois, disons, pendant une petite demi-heure. Puis après, évidemment, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez poser quelques questions à nos invités. Voilà, ça me paraît quand même la moindre des choses dans le principe d'interactivité. Alors, juste une question toute bête pour tous les deux pour entamer ce débat. Allez, c'est toujours bien en introduction de poser une question très bateau, très générale, qui permet d'affiner par la suite et qui vous réunit tous les deux. Fondamentalement, est-ce que écrire un texte, une œuvre littéraire, par exemple, une chronique ou autre chose de ce type, il y a un lien, j'allais dire, dans la fonction créative, dans la démarche créative, que par exemple se lancer dans l'écriture d'un morceau de piano ou d'une chanson, fondamentalement. Olivia. Ah, j'avais prévenu, alors, hein, on voit large.
Allez, mais oui, très large.
Les liens, alors.
Alors, le lien en ce qui me concerne est le mot. Finalement, on raconte des histoires. Que ce soit quand on compose une chanson, ou quand on écrit un court texte, un poème ou un roman. Il y a juste une différence de format. Mais on met en scène des personnages qu'on habille de nos propres émotions, en gros.
Tout simplement. André.
Alors moi, à la base, avec les mots, avec la littérature, je suis OK. Puis après, quand je me mets à la musique, la chanson, j'étais capable de mixer des chansons. J'ai eu un studio très vite. C'est quand vous mixez une chanson, vous l'entendez 400 fois, et je pouvais même pas vous dire de quoi ça parlait, tellement j'en avais rien à péter du texte. C'est fou. C'est après que je me suis rendu compte qu'en réalité, le succès des chansons tenait essentiellement, surtout en France, au texte. Moi, j'étais tellement branché musique que pour moi, une voix qui chantait, j'écoutais pas les mots. J'écoutais le sous-texte de la mélodie plutôt. Donc j'étais un peu coincé comme ça. Et après, quand je suis tombé amoureux de ma première chanteuse, je lui ai écrit un texte sublime qui disait en gros « Baby, I love you, you love me, please come back ». Et je me suis dit, mais waouh, l'anglais, où j'étais allé chercher tout ça. Je venais de rencontrer le principe de la muse.
Redonnez-la, je veux la entendre.
Mais par rapport à l'écriture, juste un truc, c'est que j'ai commencé une carrière médiatique dans un milieu hostile. C'est-à-dire, j'étais à M6. Quand je dis un milieu hostile, a priori, à la culture, puisque carrément, il y a des patrons de chaînes commerciales qui revendiquaient leur inculture comme une valeur pour être plus proche de la ménagère de moins de 50 ans qui n'existe pas. Oui, qui n'existe pas.
Alors, mais historiquement, M6 était au départ une chaîne musicale, en tout cas, et revendiquée comme telle.
Oui, mais quand on s'est mis à nous à débriefer, il fallait qu'on fasse attention à ce que les gens nous comprennent. Et c'est là que
on a fait appel à vous, André.
Bah non, alors
franchement,
le problème c'est que c'était en direct, donc ils pouvaient pas faire grand-chose. Alors c'est vrai que Gilles Deleuze, tout ça, c'est là que j'ai eu une grande amitié avec les journalistes de Libération à l'époque, les Garibert, c'est tout ça. Mais je me suis... Putain, je suis trop long là, excuse-moi Olivia. Deux choses simplement. Ma musique préférée, c'est le jazz. Quand c'est le jazz, votre musique préférée, vous imaginez le problème pour aller, pour toucher les gens, c'est un problème. Deuxième problème, je suis dans une chaîne commerciale et je parle de Gilles Deleuze. Eh bien, malgré tout, tout ça fonctionne. Donc tout d'un coup, je me suis dit finalement, et c'est là que j'ai pensé à ma grand-mère qui a inventé la PNL. C'est-à-dire se faire, quand les Arméniens ont vécu pendant 500 ans dans un milieu hostile, ils parlaient leur langue, mais ils étaient obligés de parler la langue de l'oppresseur, qui en l'occurrence était les Turcs, pour se faire comprendre, et c'est une question de vie ou de mort. Et finalement, s'attacher au verbe en disant, si je dis un mot de travers, c'est ma vie qui entre en jeu, je suis obligé de parler la langue de l'autre, donc pour me faire comprendre par l'autre, c'est peut-être juste la définition de être en intelligence avec. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce sens aigu de la personne qui se trouve en face de moi, comment me faire comprendre par elle. Et du coup, emploi de la métaphore, etc. Et c'est là que j'ai dû arriver quelque part à l'écriture.
Mais comment
c'était long, hein?
Non, non, c'est du André Manoukian, tout simplement. C'est tout à fait normal. Mais...
Non, parce que ce que j'adore dans son bouquin, que je viens de découvrir et que j'ai lu d'une traite, c'est qu'elle fait des phrases courtes. Et ça, chapeau, je te jure. Des phrases courtes, incisives. C'est magnifique.
André, mais en même temps, vous êtes aussi court d'une certaine manière, puisque la chronique, c'est une forme courte. Comment est-ce que vous êtes venu à écrire justement ces chroniques, tout simplement, et devoir faire court, justement?
Alors, devoir faire court, ça a toujours été une douleur, mais quel bonheur quand vous n'avez pas quelqu'un en face de vous pendant que vous parlez qui vous fait comme ça, ou qui vous fait comme ça, ou qui vous fait comme ça. Et bref, la chronique, là où c'était bien, c'était que pour le coup, ça, on est obligé de se tenir. Et les premières chroniques que j'ai faites sur France Inter, c'était des chroniques sur des groupes de musique, sur des chanteurs et sur des chanteuses. Et là, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de prendre les musiciens en otage pour raconter mes théories. Donc, je me suis dit, c'est plus la peine de prendre... voilà. Mais, et la chance que j'ai, c'est que j'ai fait des voyages avec Tété, notamment une émission qui s'appelait Tété ou Dédé. On s'est baladé de Cuba en Afrique, en Éthiopie. Et c'est là que j'ai découvert que la musique, c'est une route, quoi. L'étudier juste la musique en France ou la musique en Europe, ça n'a aucun sens. Toute la musique vient d'Orient. Donc, d'où d'un coup, à force d'être sur ces thématiques qui sont toujours un peu les miennes et qui me taraudent parce qu'elles sont les thématiques de tous les musiciens. Encore tout à l'heure, il y a tellement de gens qui m'ont dit le conservatoire m'a dégoûté, nanani, nanana. Je ne tape pas sur les conservatoires parce que, encore une fois, il y a un directeur du conservatoire de Rouen une fois qui m'a dit, écoute, chaque fois que tu dis du mal des conservatoires à la radio, eh ben, il y a un politique qui en profite pour dire, vous voyez que ça ne sert à rien, et pour serrer les budgets. Oh là là, on va jamais s'en sortir. Donc, non, l'idée, c'est juste... Mais après, j'arrête. Mon sujet, c'est l'improvisation. Et faire court, bah, voilà, j'arrive toujours pas.
Mais André, justement, à travers cet ouvrage, ce recueil de chroniques sur les routes du jazz, donc, vous nous apprenez l'histoire du jazz, mais à travers de nombreuses petites anecdotes méconnues, parfois a priori très éloigné. Et,
oui, parce que je commence en Éthiopie ou en Égypte au 15e siècle avant Jésus-Christ.
Quel est le rapport? On va commencer comme ça. Le rapport entre l'Égypte et le jazz. Alors, dans l'histoire, spontanément, je me dis que c'est un peu éloigné quand même, naturellement.
Ben, c'est, en fait, j'ai surtout voulu parler du rapport tu sais, une bonne musique, c'est comme Nietzsche disait, une idée, c'est une flèche qu'on envoie dans le ciel. À un moment donné, elle tombe par terre. Et si elle est bonne, l'idée, il y a toujours un mec qui la ramasse et qui va la jeter dans la même direction, dans le cul d'une autre personne. Ça, c'est moi qui rajoute. Je crois que Nietzsche n'a pas dit.
Ça sonne pas très Nietzsche.
Le grand mystère de l'Égypte, c'est qu'on a plein d'instruments de musique, mais c'est qu'on n'a aucune notation. Mais si vous allez au musée du Caire, vous avez des sistres, vous avez des flûtes à deux hanches. En réalité, C'est Roland Kirk qui jouait de deux sax dans la bouche. Il n'a rien inventé du tout. Vous avez tous les instruments de percussion, vous avez des harpes, vous avez même l'ancêtre du kanoun. En gros, vous avez tous les instruments. Et une fois, j'ai demandé à une égyptologue, j'ai dit, mais comment elles sonnent, les gammes égyptiennes ? Elle m'a dit, on ne sait pas. J'ai dit, mais quand même, les flûtes. Elle m'a dit, mais non, parce que vous savez très bien que si on joue fort dans une flûte, ça fait une octave au-dessus. L'égyptologie étant une science, ils ne peuvent rien avancer qui ne soit certifié et certifié. Et une fois, je suis tombé sur un ethnologue, un ethnomusicologue funky et légèrement alcoolique qui m'a dit, va dans l'église copte d'Addis Abeba et tu vas voir. Et on est rentré dans cette église, on a entendu un chant.
Très beau quand tu racontes ça dans le livre. On est vraiment dans cette église, même si t'es long.
En 3 minutes, t'es défoncé. J'entends ah. J'ai dit qu'est-ce qu'ils chantent là ? Là, ils sont sur le A de Alléluia et ça va durer 20 minutes. Après E, après I, c'est pour ça que la messe elle dure 6 heures. Ils sont encore plus longs que moi les Coptes. Et tout d'un coup, je pense au chant magique des voyelles et de Platon qui dit dans les temples égyptiens. Donc, voilà, Sherlock Holmes avec Platon, Rouletabille et Arsène Lupin.
Il y a un certain nombre de chroniques d'André Manoukian qui fonctionnent de cette manière, avec a priori un argument qui paraît extrêmement éloigné avec le jazz, et au fur et à mesure, André fait le lien. Je vais prendre un autre exemple, là, parce que celui-là, il est aussi amusant, les castrats. Alors, le rapport entre les castrats et le jazz, André ?
Alors, les castrats, c'est le rapport entre les castrats et le jazz, c'est simplement le rapport entre la voix d'un crooner ou d'une crooneuse, ou c'est plutôt l'analyse du psychoérotisme du chant, qui est l'instrument absolu. Pourquoi le chant est le... Et là, à côté de moi, j'ai une chanteuse. Donc, pour moi, ça n'est pas un être humain. C'est une divinité, c'est-à-dire qu'elle est entre les humains et les divins. Et on revient en Égypte, les Égyptiens s'adressaient aux dieux en chantant. Donc du début, le chant est dans... cette chose sacrée qui nous relie au divin. Fais gaffe, Olivia, parce que quand tu chantes, tu t'adresses mais pas aux fantômes, aux énergies spirituelles. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on chante, quoi, tu vois. En plus de ça, si tu chantes en faisant un barbecue, parce que les Égyptiens nourrissaient les dieux en faisant fumer la viande, alors là, faut faire gaffe.
C'est ce soir. On va voir ce qui se passe. Je t'appelle en FaceTime.
Donc encore une fois, le jazz pour moi, c'est d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû employer ce mot-là parce que ça va au-delà. C'est vraiment l'expression libre des musiciens tels qu'ils l'avaient tous. Avant ce moment funeste au 19e siècle où on décide de figer toute la musique. Pour moi, le plus grand des jazzman, c'est Jean Seb.
Mais bien Bach. Sûr, le Bach, la pièce révélateur, la musique baroque. Oh là là, Bach. Enfin voilà. Justement, le principe du jazz est dans la musique baroque d'une certaine manière.
Tous les musiciens improvisaient, pas que les baroques. Beethoven, quand il faisait un concert en piano solo, 80% de son répertoire, c'était
l'impro.
Prenez
l'exemple le plus évident du baroque.
Bien sûr, exactement. Le baroque, c'est vrai que c'était des impros collectives. Mais Mozart improvisait, Beethoven improvisait. Il y avait des battles. On a Mozart versus Clementi à Schönbrunn. Le roi, il comprenait rien du tout. Il faisait Jacques Martin. Ouais, vous avez gagné tous les deux. Mais je veux dire, on n'a pas attendu Booba et Caris pour faire des battles, je te jure. Et ça se tenait mieux quand même.
Mais vraiment, ce qui est passionnant, c'est qu'à travers la lecture vraiment de ces chroniques assez légères et riches en anecdotes, on relativise les étiquettes musicales, sans pour autant les nier, mais on voit le lien entre les époques, entre les gens. Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes fondamentalement représentatif d'une philosophie, puisque c'est un domaine que vous aimez bien, du décloisonnement ? Est-ce que c'est ça qui j'allais dire, boue en vous ?
Ah ben oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'appelle ça des routes, c'est des chemins. Encore une fois, vouloir analyser la musique avec, ou même l'histoire. On nous apprend l'histoire en étant rivé sur le truc. Les chants les plus orientaux dans les cultes chrétiens du début, ils étaient en Gaule chez nous. On appelait ça le chant gallican parce que la Gaule avait été christianisée par des évêques qui venaient de Grèce. Je croyais que moi, banalement, que c'était le chant mozarabe qui était en Espagne, qui était le plus oriental. Mais non, quant au chant ambrosien, il était il était presque suédois et un peu frigide. Enfin, donc tout d'un coup, c'est tout ça parce qu'il y a des histoires. En gros, quand je tire un fil, je tombe sur des trucs et je me dis, bon, faut que j'y aille, quoi. Et alors après, j'ai un petit côté oriental où quand vous décrivez le centre d'un tableau, vous partez de la périphérie. Même je pars de l'extérieur du tableau avant d'arriver, parce que c'est pas impoli, c'est un peu impoli d'arriver sur la note directement. C'est mieux de la prendre par-dessous, ou de tourner autour, ou de
Vous êtes
faire
plus
des
route
arabesques.
départementale qu'autoroute, quoi.
Voilà. Ouais. Même moi, ma phrase préférée, elle est d'un rabbi du XVIe siècle qui disait: ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre.
Voilà, c'est ça.
Maintenant, on peut parler d'Olivia, s'il te plaît, là, Baptiste.
Évidemment, il paraît que c'est au programme. Donc, en tout cas, voilà, on apprend beaucoup de choses à travers ces chroniques d'André Manoukian. Ces chroniques qui sont des chemins un petit peu tortueux dans le bon sens du terme.
Non, je dirais que c'est plutôt des rhizomes, pour
Voilà,
citer
Gilles Deleuze.
Gilles, dont ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de lui. C'est-à-dire, tu tires un fil et tu tires un fil et tu tires un fil. J'ai été élevé par une nounou espagnole qui me racontait des
La
histoires.
transition.
Mesdames et messieurs, il est 15h45, vous
Pas
êtes sur
moi,
France Inter.
je...
Et qui me racontait que des histoires fantastiques, un peu cheloues, qu'elle inventait. Elle me disait, ses deux frères, je leur ai offert un chewing-gum une fois, et ils se sont disputés, et ils ont tiré pour le séparer en deux, et ça tirait, ça tirait. Enfin, tu vois, il y a que des histoires comme ça. C'était chelou, et moi j'avais même un peu peur des fois. Et après, quand j'ai vu les films d'Arabal, j'ai fait, putain, c'est ma nounou. Elle s'appelait Carmen Arisa Milan. Elle nous apprenait el castellano puro. Et la première fois qu'elle a été chez le gynécologue, quand elle est rentrée, le gynécologue lui a dit bonjour madame, et quand elle est sortie, il lui a dit au revoir mademoiselle.
Oh, d'un point de vue psychanalytique.
Mais maintenant, on va... Non, mais c'est Carmen. J'ai été élevé par Carmen.
C'est dingue.
Vous rendez compte? Donc, il y a Arabal, il y a la religion, et il y a le gynécologue de ma mère. Enfin, voilà. Et parce qu'elle avait été fiancée 7 fois, et elle avait toujours refusé parce qu'ils voulaient tous faire la chose avant. Et il y avait un matador dans la bande.
Ah bah justement, quel sens de la transition? Toute
C'est pour ça que
ressemblance potentielle avec ce qu'on va trouver dans le livre d'Olivia Ruiz, en tout cas pour partie. Alors, Olivia. Votre Carmen, qui c'est? Point d'interrogation.
Elle est un peu moins
coincée
regardante,
voilà.
Voilà, que la Carmen d'entrée.
Alors justement, pour qu'on rentre vraiment dans votre univers, dans l'intrigue de votre livre, justement, présentez-la. Qui est-elle?
Alors, il s'agit d'une fratrie. Trois sœurs qui viennent pendant la guerre d'Espagne se réfugier en France. Et dans mon premier roman, c'est l'enfant du milieu, Rita, qui s'exprime. Et cette fois-ci, c'est la plus jeune, Carmen, qui a 6 ans quand elle passe la frontière. Et elle va vivre dans le sillon de ses sœurs, surprotégée par ses deux grandes sœurs qui vont lui cacher une partie de son histoire. Et comme souvent, à l'âge de 21 ans, en ce qui la concerne, elle va avoir envie de vivre sa propre vie et de croquer son destin. Et il va lui arriver des choses difficiles pour accéder au bonheur. En général, il faut passer des épreuves.
Et justement, est-ce que vous aviez un modèle particulier pour croquer Carmen ou pas?
Il y avait un peu de l'adolescente que j'ai été. Il y avait un peu de toutes les femmes des films d'Almodovar. Un peu de celle des films de Carlos Saura aussi, un peu de Lydie Salvert, un peu de Carole Martinez, un peu de tous ces gens qui peignent des personnages tranchés.
Justement, on retrouve vraiment votre univers, le drame, la famille et un décor en particulier, même si ce n'est évidemment pas le décor unique, c'est celui des cafés. Qu'est-ce qui vous fascine fondamentalement dans les cafés et d'où vient cette fascination, même si on a une petite idée?
Bah, j'ai grandi dans un café de ma naissance à mes 11 ans. Et c'est vrai que c'est fondateur de grandir dans un café. On grandit avec que des gens, avec des j'allais dire, des typicités ou des atypicités. avec des gens fragiles, des gens, souvent quand on vient dans un café, encore plus à cette époque-là, dans les années 80-90, on venait essayer de rompre sa solitude. Donc on se racontait. Donc je crois que quand on grandit avec des gens venus de plein d'univers différents, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs histoires improbables, on finit par être très inspiré par cette faune-là et ce lieu. C'est un personnage du livre finalement, et ce lieu existe vraiment. J'y retourne régulièrement et je vois tous les petits vieux de mon enfance qui bizarrement étaient vieux dans mon enfance, mais sont toujours là et toujours vieux.
Ils sont nés vieux, faut le savoir.
Il y a quelques générations effectivement qui sont un peu comme ça. Donc voilà, j'utilise ce décor parce que ce décor me rassure, me fait du bien et que il est une source d'inspiration infinie. Le résilient se retrouve beaucoup dans les cafés, en tout cas dans le mien.
Alors, Olivia Ruiz, j'allais dire, c'est un roman qui repose moins sur une intrigue en particulier que sur des portraits de personnages, parce que c'est vraiment ce qui est marquant ici, c'est vraiment votre capacité à croquer des personnages, à chercher la singularité, la bizarrerie, l'originalité, l'inattendu dans chacune des personnes que vous décrivez. Justement, est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez, ou en tout cas que vous ressentez presque de manière consciente, ce besoin de décrire et vous attacher aux singularités de vos personnages?
Parfois j'ai pas du tout l'impression qu'ils soient si singuliers que ça. Alors je me dis, je dois être un peu folle, ou alors vraiment j'ai été entourée de gens vraiment un peu zinzin, pour que ceux-ci, on les trouve parfois un peu zinzin aussi.
C'est peut-être vous qui les singularisez aussi.
Peut-être moi, je ne sais pas. J'aime les gens différents. Et comme je disais à André juste avant d'entrer, je regarde. Je regarde tout, malgré moi. Malgré moi, je scrute une gestuelle, une façon de s'habiller, le choix d'un vocabulaire. Et je crois que tout ça m'assert. Et au bout d'un moment, les personnages qui manquent à ma vie finissent par naître. Quand j'ai eu des moments de difficulté, j'ai eu besoin d'une Yaya pour me guider.
Justement, qui est Yaya? Présentez-la.
Alors, la Yaya, c'est une femme que Carmen va rencontrer en prison, puisqu'elle va se retrouver pendant plusieurs années dans une prison de femmes en plein franquisme. Et la Yaya va être son sauveur. C'est une femme qui est en prison depuis de longues années, qui va y rester encore bien après Carmen, a priori. Une espèce de petite bonne femme très masculine, très rentre-dedans, qui s'écoute un peu parler et qui a trouvé son salut dans la poésie ou dans la citation ou dans le roman. Et tout à coup, par le mot, elle va soigner Carmen. Elle va lui balancer une petite citation de Don Quichotte. Carmen, qui n'a aucune culture, ne se rendra même pas compte que ces mots vont faire leur chemin. Et je crois que ça a été mon cas aussi. J'ai trouvé mon salut. J'ai comblé ma solitude dans les livres. Et je me suis dit que ça pourrait être le cas de mon personnage aussi. Et avec ce personnage de la Yaya, je m'amusais avant tout. Plus je la décrivais, plus j'avais envie de la connaître, plus je l'aimais, plus j'avais envie qu'elle reste.
Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je croyais que tous ces personnages avaient existé tellement c'est réaliste, quoi. Et je me disais, alors mais Olivia, elle est où? Non, on est dans les années 60, c'est pas possible et tout, c'est pas encore elle et tout ça. Et c'est ça qui est fou. Et on apprend plein de choses, on apprend les postérieurs et les antérieurs. Là aussi, c'est fou. C'est ces femmes prisonnières qui sont des républicaines.
Ils sont classées.
Exactement. Voilà. Antérieures, c'est elles ont fait des...
Elles ont combattu contre Franco. Postérieures, c'est celles qui combattent une fois qu'il est au pouvoir.
Waouh.
Donc les postérieures sont bien évidemment beaucoup plus
maltraitées,
sauvagement punies en prison que les autres. Ça, c'est génial. J'ai trouvé une thèse d'un étudiant, voilà, sur le sujet. Et là, ça a été du pain béni parce qu'il n'y a pas d'infos. La tauromafia, c'est en faisant des recherches sur le premier roman, elle va tomber amoureuse d'un torero qui cache quelques secrets.
Par contre, la scène où ils se rencontrent, là, elle est géniale. Enfin, le moment où il la chope dans les escaliers. Pardon, 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 excuse-moi.
Mon père a beaucoup aimé cette scène. La lecture de mon livre s'est arrêtée à cet endroit, d'ailleurs.
Mais par ailleurs, André, juste avant, oui. pour revenir aux propos antérieurs, ce qui est vraiment intéressant aussi dans ce livre, c'est que vous reconstituez, mais sans appuyer, le contexte, j'allais dire, politique de l'époque, ce qu'il impliquait sur les êtres, en premier lieu sur les femmes. Mais ça reste juste une toile de fond. Vous n'oubliez jamais qu'on est dans une fiction, on n'est pas dans un livre à thèse à proprement parler. Non, non. C'est un bain pour nous le rappeler et pour faire exister vos personnages.
Ben, forcément, le contexte dans lequel on évolue forge aussi nos attitudes, nos choix et nos personnalités. Donc c'est impossible de l'oublier dans ce cas. Et en même temps, je ne me vois pas faire un roman historique. Ce n'est pas la recherche qui me passionne dans mes histoires, c'est les êtres, effectivement.
Est-ce que vous pourriez aussi nous parler de Kali ? Pas le chanteur, évidemment.
C'est un peu à cause ou grâce à lui que j'ai donné ce prénom. Dans le premier livre de Kali, il raconte ce moment terrible où c'est un récit autobiographique où sa maman meurt, il est enfant et on lui interdit d'assister aux funérailles. Mais il voit passer le cortège depuis sa fenêtre. En écrivant le premier roman, à un moment donné, je me retrouve confrontée à ce moment où il faut que mon personnage principal perde un enfant. Je suis jeune maman. Je n'ai pas envie d'écrire ça et pourtant toute la dramaturgie appelle ça. Donc je l'écris et à ce moment-là, je viens de lire le livre de Kali qui m'a énormément fait pleurer. Et je me dis, ben tiens, et si cette femme portait le prénom de celui qui a vécu ce type de souffrance. Donc ouais, c'était presque un hommage. Kali, c'est une nièce. J'ai beaucoup d'amis qui peuvent pas être maman ou qui n'ont pas pu ou qui voilà. Et j'avais vraiment envie pour elle et pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants de raconter la puissance d'une relation maternelle entre deux personnes qui ne sont pas liées par le lien maternel. Et Carmen et sa nièce sont largement aussi unies, aussi dépendantes et aussi puissantes ensemble que le sont une mère et une fille. Je crois que c'est pour ça que j'ai commencé à créer cette relation face à la peine que je comprenais tellement bien de ceux de celles, en l'occurrence, qui pensaient ne pas pouvoir réussir à trouver un lien aussi fort à cause du fait qu'elle n'ait pas pu être maman.
Mais en tout cas, vous évoquiez tout à l'heure les films d'Almodovar, de Saura, mais en effet, on retrouve cette capacité à faire exister des personnages féminins vraiment très, très riches et passer de choses vraiment poignantes à des choses aussi drôles, inattendues. Et c'est ça qui fait aussi la force de ce livre, intitulé donc « Écoute la pluie tomber ». Qu'est-ce qui signifie ce titre, au fait ?
C'est un quartier gitan près de chez moi qui s'appelle Escuto Camplao.
Et le gitan, très important aussi dans le livre.
Mais oui, et ça veut dire écoute la pluie tomber. Alors évidemment, chez moi, ils ne le disent pas comme ça, ils disent écoute la pluie qui tombe, et c'est moins poétique. Et ce quartier, on avait tous envie d'y aller, parce qu'il y a quelque chose de magique dans le monde des gitans, beaucoup de rites, et évidemment, on n'avait pas le droit d'y aller. Même j'entendais parfois des mamans qui disaient « Si tu fais des bêtises, on t'emmènera à Escuto Camplao. » Nous, on rêvait tous d'y aller, on va peut-être faire des bêtises. Comme si c'était l'endroit dangereux, voilà, vraiment tous les clichés. Et ce nom, depuis toujours, m'emmène et me fait voyager. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en faire le prénom, enfin le surnom d'un des personnages. Et encore une fois, Escuto, c'est un homme que j'aurais aimé avoir dans ma vie. Je crois qu'à un moment donné du livre, j'ai été un peu tombée amoureuse.
C'est dangereux de tomber amoureux d'un personnage.
Et là, il n'y avait pas de 06 à appeler. C'était le problème.
Ou alors, il faut l'inventer, mais c'est pas... Enfin bref, c'est un
là,
autre...
Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué.
Ou alors, il faut aller voir un ami psychanalyste d'André Manoukian.
Il s'est reconnu complètement, André, dans le Torero.
Je suis reconnu dans tous les gars de ton bouquin. À un moment donné, tous ceux qui...
J'étais très gênée, parce que je pensais que j'avais été un peu plus fine que ça. Mais...
Non. Non, ça se voit. Ce qui est beau, c'est, je veux dire, cette énergie que ces femmes admirables ont. Et c'est un livre de femmes... dans lequel on voit les hommes à travers leur lâcheté et tout ça, et puis il y a une figure rédemptrice à travers celui-là qui je vais pas le dire, mais qui retrouve la... Mais je vais pas le dire. Non, c'est le... Faut pas le dire. Non, mais c'est ça qui est magique aussi. Il y a un bateau, il y a des jazzman. Hein?
Mais ah ouais. Bah ça, c'est Novecento. Tu as
pensé à moi, là?
Non, j'ai... Encore là, je pensais aussi à toi, dans ce chapitre. Ça,
c'est... Bon, bah, on va partout. Vous laisser tous les deux. Hein.
Non, mais Novecento.
Oui, exactement. Voilà,
mais
voilà,
ce,
c'est ça.
Vous avez... Si vous n'avez pas lu ce livre, il faut absolument le lire. Ça se, le lire, ça se lit en 25 minutes.
En fait, tu as fait ce livre comme une musicienne, c'est-à-dire que tu as chanté, tu sais, on attrape des mélodies qui nous rentrent dans la tête, on les transforme, on les assemble et c'est vraiment ce que tu as fait. Et on ne s'en rend pas compte. On ne dit pas, tiens, ça, c'est ça ou ça, c'est ça. On se laisse prendre complètement par le truc.
C'est vrai, ça, je l'ai réalisé en retombant sur Novecento chez moi, en rangeant.
Mais c'est normal.
Et je me suis dit, ah oui, mais mon paquebot, là...
Non, 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 mais la poésie, elle appartient à celui qui l'a dit. Je suis désolé.
Il est pas mauvais, hein. Voilà. Alors, bon, le temps avance, et pas tout ça, mais vous êtes nombreux, j'imagine que vous êtes quand même quelques-uns à avoir envie de poser des questions à nos invités. La parole est à vous. Voilà. Alors, qui se lance en premier? Sinon, André Manoukian prend la parole, hein, je vous préviens. Et là...
Alors, si vous n'avez pas de questions, oui. Moi, j'ai plein de réponses, par contre.
Oui, alors, juste derrière, oui. Attendez, on va vous apporter le micro juste là, derrière vous. Voilà. Nous vous écoutons, merci.
Bonjour. J'aurais plus qu'une question, une requête. Vous n'êtes pas contre les projets, les idées. Apparemment, vous parliez d'idées et que bon, ça a été plutôt là-dessus facile. Je vous ai trouvé très touchante par rapport à ce que vous disiez sur la femme, sur... cette impossibilité parfois qu'on peut devenir mère, j'ai trouvé ça, enfin voilà, ouais, particulièrement touchant. Donc je disais, je revenais à cette idée plus d'une requête qu'une question. Effectivement, j'aurais un projet ici et j'aimerais beaucoup vous en parler, à l'un comme à l'autre, après éventuellement ce débat, si vous n'êtes pas contre. Juste un instant. Voilà.
Merci. Ouais. Le secret absolu. Voilà. Chut. Alors, d'autres questions Oui, devant. Hop.
Dans ton premier roman, Olivia, on retrouve beaucoup des personnages que tu chantes dans tes chansons depuis 20 ans. Et une petite adaptation en film avec... avec les chansons au milieu, ce serait chouette aussi comme idée.
Alors, ce ne sera pas en film, ce sera en série. Voilà, et c'est en cours d'écriture. Et moi, je ne serai pas scénariste ni réalisatrice. J'ai vraiment donné mon bébé à la nounou, mais j'ai choisi une très bonne nounou. Et je lui donne quand même quelques indications. J'adorerais mettre ma musique dedans, parce qu'effectivement... elle existe, la BO de mes livres dans mon répertoire, mais ça, ce sera au bon vouloir du réalisateur, parce que ça ne dépendra plus de mon choix. Je vais proposer, mais il aura tout à fait le droit de m'envoyer bouler ma musique pour prendre autre chose. Voilà, si c'est le Modovar qui réalise, je vais quand même pas lui imposer ma musique. Non, évidemment, ce sera pas le Modovar, je plaisante, mais voilà, c'est vrai que j'adorerais, mais je ne pourrais que proposer sans certitude qu'elle soit gardée, puisqu'aujourd'hui, ce projet ne m'appartient presque plus, sauf sur le démo. J'ai gardé un droit de validation des scénarios pour ne pas que les personnages soient trahis, mais voilà, je ne pourrais pas forcément ni imposer ma musique, ni me mêler du casting ou je ne sais pas quoi, alors que vraiment, je sais exactement qui je voudrais.
Parce que du coup, mon mari ne comprenait pas pourquoi je me mettais à chanter en lisant ton roman.
Ah, et ouais.
Mais vraiment, il ne faut pas s'étonner d'un tel projet, car une fois encore, on en revient au personnage, vous proposez de très beaux rôles à travers toutes ces personnes que vous avez su créer. Voilà.
Cela dit, Carmen, pour le deuxième, après coup, je me suis dit, parce que ma formation première est celle de comédienne, c'est ce que j'ai étudié, le reste pas vraiment sur le tas, quoi. Et je me suis dit, oh là là, mais comme de par hasard, mon nouveau personnage à mon âge, ou presque.
C'est ça, hein.
Par je contre, crois que voilà, je me suis offert.
Attention,
le
il fait payer après, hein, André Manoukian, uniquement en liquide. Hein.
Non,
voilà,
non,
faut quand même savoir.
Si ouais. jamais,
bon,
si, non, ouais. si jamais pour le Matador, t'as des doutes, enfin,
je n'en ai pas. Ça me semble une telle évidence. Donc voilà, peut-être que le deuxième vivra un jour audiovisuellement.
Alors, autre question ? Oui, monsieur, attendez, hop, on vous apporte le micro pour qu'on puisse vous entendre. Ce qui est d'autant plus normal dans un auditorium. Voilà, la parole
Merci
est à
beaucoup.
Vous.
Moi, c'est pour remercier André de son premier livre, Les chemins de la musique, où il m'a fait découvrir Pythagore, qui pour moi, bon, j'ai gardé encore quelques notions encore du lycée, mais là, Pythagore, donc, c'est l'inventeur de ces 12 notes, comme tu nous dis, qui contiennent toute la musique du monde. Et pour moi, c'était une révélation et c'est un apport important. Parce que Pythagore, pour moi, j'étais resté sur le nom Pythagore, donc celui qui avait été annoncé par la Pythie. Et au collège, on avait une plaisanterie, comme ça, on disait, bah oui, parce que c'est son père qui avait eu cette annonciation lorsque, par la Pythie, lorsqu'il était en séjour à Delphes. Et puis, il attendait la Pythie. Ils étaient tous en train de banqueter, comme ça, des agapes fraternelles, si tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, est venue l'expression « la Pythie vient en mangeant ».
La Pythie.
Je m'excuse.
Ça, c'est moi qui l'ai fait, normalement. Mais...
Désolé,
ça,
c'est cadeau.
Gottlieb, la rubrique à bras qu'il faut citer à un moment donné, quand même.
C'est cadeau.
C'est magnifique.
Merci pour tout le bonheur que tu nous donnes, en tout cas.
Merci beaucoup, mais merci. C'est vrai que je vais chercher loin, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, alors évidemment, les Pythagores, c'était surtout des écoles pythagoriciennes, c'était un mouvement de pensée, on ne sait pas s'il a existé forcément, il y en a qui disent qu'il a été en Égypte et qu'il a attendu 20 ans avant de se faire initier là-bas et que finalement, au bout de 20 ans, ils ont dit « putain, il en veut celui-là, donc faisons-le rentrer dans le temple ». Mais c'est vrai que toute... pourquoi il m'a branché sur Pythagore ? Là, on ne va pas s'en sortir. C'est vrai que ce qui est formidable, c'est que moi, j'ai fait des découvertes en écrivant ce bouquin. Puis c'est peut-être pour ça qu'on écrit, d'ailleurs. Je me suis rendu compte qu'en réalité, les gens voyageaient énormément dans l'Antiquité. Socrate a été en Égypte. Platon a été en Égypte. Pythagore, deux siècles plus tôt encore, avait été en Égypte. C'était le Harvard de l'époque, c'était Luxor. D'ailleurs, c'est pour ça que Philippe Catherine dit Luxor, j'adore, parce que c'est là que tout se passe en réalité. Mais il n'y a pas que l'Égypte, il y a aussi la Perse, il y a l'Inde aussi. Ces gens voyageaient énormément. En réalité, c'est de la folie quand on pense que nous, on apprend l'histoire en disant la philosophie est née en 600 avant Jésus-Christ à Athènes avec les pré-socratiques. Parce qu'avant, les gars, ils ne réfléchissaient pas. Quand on regarde les civilisations babyloniennes, quand on regarde l'Égypte, ou même quand on regarde l'Inde, les Védas, c'est 6000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc, encore une fois, moi, je tire un fil et je tombe sur tout ça. Donc, à un moment donné, je dirais, ma chance, c'est aussi d'être un autodidacte. Je fais des découvertes et je m'extasie. Alors qu'un agrégé de philo, il ne s'extasie pas parce qu'il le sait, donc il n'en a rien à péter. Donc par contre, moi je dis, waouh les gars, c'est génial. Vous vous rendez compte, Platon, il a été écouter le chant des Égyptiens, des voyelles et tout ça. Et moi je l'ai entendu chez les Coptes. Et d'ailleurs, Copte, ça veut dire Égyptien, Égyptos. Donc ça veut dire qu'en réalité, les Égyptiens, quand ils ont fui les Perses, ils se sont réfugiés en Éthiopie. Mais c'est pour ça que les Éthiopiens sont si beaux. En fait, je les ai reconnus, c'est Ramsès qui... Enfin voilà, tout un fil. Mais pour revenir à Pythagore...
Oui.
La musique, ce sont des mathématiques, ce sont des proportions. Et c'est pour ça qu'il y a des musiques qu'on aime et d'autres qui nous font mal. C'est qu'en réalité, les musiques qu'on aime, ce sont des accords harmonieux. Mais c'est quoi un accord harmonieux ? C'est tu prends un La à 440, l'octave, elle est à 880, c'est multiplié par 2. Et du coup, avec des chiffres harmonieux et des proportions naturelles, on arrive sur l'accord parfait. Et c'est pour ça que Mozart ne joue que sur l'accord parfait. Do, mi, sol, mi, sol, do, sol, do, mi, mi, do, sol. Mozart, c'est vraiment la nature. Et c'est pour ça que les chèvres, elles font du meilleur lait en écoutant Mozart, parce qu'il est dans les harmoniques. Par contre, il y a des notes qui se détestent. C'est les notes qui sont voisines, c'est les voisins qui se cassent la gueule entre eux. Donc la et la dièse, c'est horrible parce que c'est 440 et 452. Donc le rapport, il n'est pas fixe. Donc quand on aime quelque chose, c'est parce que ce sont des rapports harmonieux. Pythagore, il voyait des proportions partout et moi aussi, du coup. Enfin, bref, il voit des signes partout, mais voilà. Alors, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que le paradoxe de la musique, c'est que ce sont des mathématiques et du cul. Mais excusez-moi s'il y a des enfants, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très rigoureux et de la sensualité. J'exagère en disant du cul. Pourquoi je dis du cul ? Pour provoquer un petit peu. Pourquoi ? Parce que les religieux ont toujours eu très peur de la musique. Et le premier qui a fait flipper les musiciens, c'était pas un religieux, c'était Platon pourtant, qui dans sa cité idéale refusait les musiciens et les poètes. Tu te rends compte ? Il disait que ça ramollissait les hommes. Mais quel enfoiré ce Platon parfois, hein ? Hein ? Donc, et du coup, après chez les chrétiens, ça a dégénéré. Il y a eu, alors chez les Grecs, c'était la musique apollinienne et la musique dionysiaque. On a besoin des deux pulsions pour... parfois, on veut élargir sa conscience en écoutant une mélodie monodique très pure, comme ça. On écoute la Passion selon saint Matthieu. Et puis, tout d'un coup, le soir, on a envie d'écouter Tata Yo-Yo et de danser avec... on a besoin des deux. Les Grecs disaient qu'il n'y avait pas de problème. Chez les chrétiens, c'est devenu musique de Dieu et musique du diable. Et chaque fois que les religieux ont voulu contenir la musique, c'est comme l'eau, elle s'échappe. Et ça fait autre chose. C'est pour ça qu'il y a pas mal de religions dans mon bouquin, c'est-à-dire à un moment donné, je parle de Martin Luther qui va inventer d'une certaine manière le gospel, qui va dire ma religion à moi, elle va se développer par le chant. Et tout à l'heure, tu évoquais les castrats. Les castrats, c'est parce que dans l'Église catholique, les femmes n'ont pas le droit d'avoir la parole. Tout ça parce que saint Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées ecclésia. Donc du coup, chez les cathos, les femmes ne chantent pas. Donc du coup, c'est les petits garçons qui chantent. Mais après, quand ils ont mué, qu'est-ce qu'on fait ? Et pendant ce temps, les protestants, chez eux, les hommes et les femmes chantent. C'est toute l'assemblée qui chante. Alors que chez les cathos, c'est juste une chorale, quoi. Donc tout d'un coup, il y a cette idée que tout le monde, en chantant, participe à la vie et à l'élaboration d'un projet. Et ce n'est pas un hasard si les démocraties modernes en Europe sont nées chez les protestants. Et tout d'un coup, les catholiques, pour rivaliser avec ça, pour dire, mais nous aussi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Les femmes, ça ne marche pas. Ah ben, pif, voilà. Et ça arrive quand ? Ça arrive quand les Turcs envahissent Constantinople. Du coup, les Byzantins vont se réfugier en Italie. Et c'est eux qui amènent avec eux les castrats. En réalité, on croit que les eunuques sont nés des Ottomans, mais pas du tout. Les eunuques, c'est de la Grèce antique. Donc, ces Grecs byzantins amène avec eux les castrats et là, les eunuques, et on dit, putain, un eunuque, ça a une chouette voix. Du coup, voilà. Et alors après, évidemment, ils allaient en Sicile chercher les petits garçons, mais je veux dire, pour les familles pauvres, c'était génial si ton gamin y survivait, parce qu'en même temps, l'Église les payait, il leur payait une éducation. Et après, un castrat qui ne faisait pas carrière, il pouvait faire curé, ce qui était pas mal aussi. Enfin, bref. Tout ça pour parler de Pythagore, oui, mais moi ça. Je dis vive Pythagore.
On parlait de nuque, ce serait peut-être bien coupé. Enfin, moi je dis ça comme ça.
Et Platon. Okay.
En tout cas, oui. Aussi dans le livre d'André, on retrouve tous ces éléments entre le sacré et le profane, au-delà de la musique, des questions sociétales, politiques. Ça aussi, c'est vraiment au cœur de votre livre. Mais André, dans votre court monologue il y a quelques instants, André, vous avez parlé de la musique et d'accords harmonieux. Vous savez quoi ? Juste derrière, il y a un Steinway. Je l'ai testé ce matin. Il est pas mal. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je vais tirer une intro. On y va en freestyle.
Une petite impro ? Moi, je dis ça, je dirais.
Donc là, on va vous jouer un accord mineur, c'est-à-dire normalement un accord très triste. Mais en réalité, à un moment donné, il va passer majeur. waouh, et là on va dire oh comment ça fait du bien, et puis on va être mineur à peu près, puis après, et puis après
je crois. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu bárbula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti.
Mesdames, Messieurs, Olivia Ruiz, André Manoukian. Un grand merci à tous les deux, en tout cas. André Manoukian, on va vous retrouver dans quelques instants sous le stand pour dédicacer Sur les routes du jazz, donc publié chez HarperCollins. C'est Olivia Ruiz, Écoute la pluie tombée, publié chez Jean-Claude Lattès. Et oui, les rencontres s'enchaînent ici, que voulez-vous. C'est aussi la loi et le plaisir de la Foire du Livre.
Il y a voilà, la police qui nous évacue, là, mais on va se retrouver sur le stand maintenant. Salut, voilà. Merci à tous.
Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne fin de Foire du Livre. À très bientôt.